Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, des contes, des légendes, des histoires. Enfin, ça c'était avant, c'était d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale, très spéciale même. Pourquoi ? Eh bien, bon, d'abord, il y a des élections bientôt. Ah, vous allez me dire, mais c'est tout le temps, il y a toujours des élections. Mais cette fois-ci, c'est vraiment spécial. C'est peut-être pas la peine de vous faire un dessin. On en reparlera dans 15 jours. Bon. Ensuite, c'est une, non pas une première, mais une dernière. Non, pas le dernier compte à rebours. Non, non. Quoique, on sait jamais. On sait jamais, hein, ça, de ce côté-là, on sait jamais. Mais c'est la dernière émission enregistrée dans ces conditions, dans le studio de Caylus, avec un réalisateur, je dirais. Pas un simple technicien, non. Un vrai, on pourrait dire que c'est un coordinateur d'antenne, mais bon, je pense qu'on lui refuse le titre, en haut lieu. En tout cas, un amoureux de la bonne radio, qui a des idées, qui fait des propositions, qui corrige, qui améliore, qui peaufine. Bref, oui, un réalisateur qui s'en va. Il quitte le navire. On le pousse un peu, faut dire, mais bon. Et puis, elle est spéciale aussi, parce que plus j'essayais de la préparer, cette émission, moins j'arrivais à la faire. Et tellement bien que j'ai fini par renoncer. Je voulais faire, au départ, des extraits des lettres au dernier Grand Pingouin, de Jean-Luc Porquet. C'est un livre passionnant. Jean-Luc Porquet est venu dans la région pour parler de son livre. Bref, voilà, il y a des choses passionnantes, mais j'ai pas réussi. Et puis, ça m'a rappelé, ça a fait écho aussi à toute une époque où, sur cette même antenne, je faisais, non pas seul, avec un compère, une émission qui s'appelait Zigzag. C'était, je me rappelle, avant l'ère Sarkozy. Vous savez, on vient de connaître l'ère Hollande. Il y a eu avant l'ère Sarkozy, et avant cette ère Sarkozy, eh bien, on faisait une émission Zigzag. Alors, je me rappelle même plus qui était Zig, qui était Zag. Ça partait un peu dans tous les sens. On parlait de politique, on parlait de sujets de société, on parlait de tout un tas de choses, dans tous les sens, d'où le titre Zigzag. Et puis, on y croyait, on pensait que notre parole était entendue, pouvait changer des choses, oui, mais voilà, quand est arrivée l'ère Sarkozy, qui nous a quand même flanqué un coup au moral, faut bien le reconnaître, l'élection d'un homme, on va dire, aussi frimeur, aussi flambard, aussi bling-bling. Ben tout ça, on a abandonné cette émission, mais plus j'ai essayé de préparer celle-là aujourd'hui, plus je me retrouvais en résonance avec cette époque, parce que je me dis, à la veille de qui on est aujourd'hui, de quelle ère sommes-nous, après l'ère Sarkozy, après l'ère Hollande, qui sera le suivant, et est-ce qu'il n'y aura pas une grande déception, ou peut-être l'inverse, allez-vous en savoir. J'ai eu beaucoup de mal à préparer cette émission, d'ailleurs, je vous prie de m'excuser de mon ton un peu hésitant. Aujourd'hui, ce ne seront pas des contes, des légendes, des nouvelles, ce n'est pas un conte à rebours, non, c'est quelque chose de très spécial, mais quand même, j'ai gardé mon idée de base, hein, parce que j'ai gardé en tout cas des éléments de mon idée de base, c'est lire quelques extraits de cette lettre au dernier Grand Pingouin. Et je commence tout de suite. En 1794, Le marin Aaron Thomas laissa ce témoignage édifiant concernant les pratiques en vigueur sur l'île aux oiseaux. Oui, parce que je vous résume les paragraphes précédents. Du côté de Terre-Neuve, là où les pêcheurs venaient chercher la morue, on a fini d'ailleurs par la faire disparaître, hein, cette morue, alors qu'il y avait des bancs gigantesques. Et il y avait aussi une île qu'on appelait l'île aux oiseaux, où ils allaient s'approvisionner en viande, parce que c'est bien joli de manger de la morue tous les jours, mais ils avaient envie de viande, et sur cette île, il y avait le grand pingouin qui nidifiait 2 mois par an, parce que le grand pingouin a disparu et il vivait dans l'eau. Hein. On croit qu'il y a toujours des pingouins. Il y a des espèces de pingouins, mais le grand pingouin a disparu. Et il venait 2 mois par an faire ses œufs sur cette île. Et c'était pratique. Et on le chassait pour le manger. Donc, en 1794, ce marin raconte ce qui se faisait sur cette île. Si vous venez pour leurs plumes, oui, parce que, excusez-moi, je l'ai pas dit, mais les plumes étaient très prisées des fabricants d'oreillers et de chapeaux. Tiens. Ah oui, à cette fin, eh bien oui, au tout début, il y avait encore quelques vieilles plumes qui traînaient sur les chapeaux de cette fin. Mais vous voyez, 1794, c'est quand même avant le 19e siècle, donc là, c'est une époque où les plumes ont été utilisées dans toute l'Europe pour faire des décorations et des chapeaux. Donc si vous venez pour leurs plumes, dit ce marin, vous n'avez pas à vous donner la peine de les tuer, mais vous en attrapez un et arrachez ses meilleures plumes. Puis vous laissez le pauvre pingouin avec sa peau à moitié nue et déchirée mourir comme il l'entend. Ce n'est pas une méthode très humaine, mais c'est la pratique courante. Et de nous instruire d'autres distrayantes coutumes. Dès lors que vous demeurez sur cette île, vous ne cessez de pratiquer d'horribles cruautés. Non seulement vous les plumez vivants, mais vous les brûlez vivants également. Vous prenez une marmite dans laquelle vous jetez un ou deux pingouins, vous allumez un feu en dessous, et ce feu est uniquement alimenté par les malheureux pingouins eux-mêmes. Leurs corps huileux produisent bientôt une flamme. Comme pas un seul arbre ne poussait sur cette île, il fallait bien trouver du combustible. Toi, oui, grand pingouin, dit Jean-Luc Porquet, l'homme ne prenait guère de gants avec les tiens. Pour lui, tu n'étais pas un gibier noble. Ton innocence, la facilité avec laquelle tu te laissais faire, éveillait chez lui un écrasant mépris qui lui autorisait toutes les barbaries. Oui. Lettre au dernier grand pingouin de Jean-Luc Porquet, l'autre jour, donc je lisais ça, puis j'ai regardé aussi un documentaire sur les premiers temps de Greenpeace où il y avait encore une fois des images qu'on a 100 fois vues. Des images, par exemple, de bébés phoques, hein, qui étaient à l'époque chassés. Je sais plus si ces pratiques ont totalement cessé, mais à l'époque c'était très généralisé. Oh, ben, tout simplement, le bébé phoque, on lui plantait un grand croc dans le crâne, ce qui le tuait, et on l'entraînait. Sa mère, bien sûr, qui s'en occupait, était furax, et essayait de le récupérer. Et le pêcheur, on voit ces images, il lui envoyait des grands coups de matraque dans la figure, elle aboyait, elle criait. Des images insoutenables, tout aussi insoutenables, les images de massacre de baleines en série pour faire de l'huile. Aujourd'hui, on le sait, hein, l'extinction des espèces a commencé. D'ailleurs, on le lit à nouveau dans cette lettre au dernier grand pingouin sous la plume de Jean-Luc Porquet. La biodiversité s'effondre. Plus du tiers des espèces sont en voie de disparition. Nous vivons actuellement la 6e grande extinction, la dernière, remontant à 65 millions d'années. C'était celle des dinosaures. La catastrophe, dit-il, n'est plus devant nous. Nous y sommes. Eh oui. Et pourtant, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, les pêcheurs disent « Ah bah, les quotas !» Les chasseurs disent « Pendant les écolos qui nous empêchent de chasser !» Et ainsi de suite. Je m'interrogeais, pourquoi cet aveuglement suicidaire ?
On est mal, on a le dos couvert d'écailles. On sent la paille dans la faille, et quand on ouvre la porte, une armée de cloportes vous repousse en criant, ici pas de serpent. Animal, on est mal. Animal, on est mal. Animal, on est mal. On a deux cornes placées sur le devant du nez. On s'abaisse, on s'affaisse, on a la queue qui frise, on a la peau épaisse, on a la peau grise. Et quand on veut sortir avec une demoiselle, on l'invite à dîner, quand elle vous voit, que dit-elle? Il ne vous manque qu'une bosse, pas des rétro-rhinocéros. Animal, on est mal. De la girafe, la voilà qui se retrouve le cou plein d'agrafes. Elle appelle au secours, on veut lui mettre un pantalon, mais il est trop court. Animal, on est mal, on prend ses œufs dans le sable, et quand on passe à table, les chevaux vapeurs ont pris peur de se retrouver loin de leur étable. Animal, on est mal. Animal, on est mal. Animal, on est mal. Et si l'on ne se conduit pas bien, on revivra peut-être dans la peau d'un humain. Animal,
pourquoi cette aveuglement suicidaire, donc. Pourquoi ce massacre? Pourquoi cette destruction systématique de ce qui est notre milieu de vie? Deuxième acte, l'autre jour, je regardais Mediapart. Alors bon, juste un peu de pub pour Mediapart, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Il y a des organes de presse aujourd'hui qui ne dépendent pas des grands groupes financiers. Il y en a très peu, sachez-le, il y en a très peu. Mediapart en est un, on peut le lire sur Internet. Ils organisent même des émissions comme à la télé, c'est-à-dire des débats tout simplement dans leur salle de rédaction, ça discute. Et je regardais un débat, pas plus tard qu'il y a quelques jours, où il y avait là rassemblé tout un tas d'associations qui ont fait ensemble ce qu'on appelle l'appel des solidarités. Peut-être vous en avez entendu parler, Emmaüs, ATD Carmonde, l'Association des paralysés de France, les colibris, les fondations Nicolas Hulot, je ne sais plus lesquelles exactement, mais un grand nombre d'associations. Que s'est-il passé et qu'est-ce que j'ai vu dans cette émission? C'est qu'il y avait eu une prise de conscience de toutes ces associations qui disaient: il n'y a rien plus à attendre des politiques. Parce que oui, les élections précédentes, ils allaient voir les politiques et leur disaient voilà ce qu'on aimerait obtenir, chacun dans son domaine, en termes de logement, en termes de social, de santé, d'environnement, chacun avec sa thématique. Et bien sûr, les politiques disaient oui, mais oui, on va faire ci, on va faire ça. Et ils attendaient. Et bon, bien sûr, aucune promesse n'ont était tenu. On se rappelle des années Sarkozy, on se rappelle des années Hollande qui ne sont même pas terminées. En bref, ils ont dit maintenant, il n'y a plus rien à attendre des politiques, ça c'est le premier constat. Et le deuxième, c'est que tout est lié. Chacun, bien sûr, a sa thématique, le combat particulier dans lequel il s'est engagé. Certains, c'est la santé, d'autres, c'est l'environnement, d'autres, c'est les injustices, d'autres, c'est l'accueil des réfugiés, d'autres, c'est le bon traitement des animaux. Et ils se sont rendus compte que tout était complètement lié. On ne peut plus distinguer l'injustice sociale des crimes environnementaux, de la manière dont on traite les autres pays ou les personnes issues des autres pays. Tout est complètement imbriqué, indissociable. Ça, c'est le deuxième constat. Et le troisième, c'est ben finalement, mettons-nous au boulot concrètement. Et d'ailleurs, ça, ils n'ont pas attendu cette année pour le faire. Ça fait des années qu'ils le font, qu'ils sont chacun au boulot. Mais ils ont pris conscience qu'ils avaient tous intérêt à s'unir. Et à cette émission, il y avait un philosophe que je connaissais pas, qui s'appelle Patrick Vivray. Il a pas dit grand chose. Il a dit, regardez un enfant. Enfin, ça c'est, je prétends pas que ce sont ses paroles, hein, c'est ce dont je me rappelle. Il a dit, regardez un enfant. Il est devant le monde, émerveillé. Et il est fragile aussi. Il faut l'aider. Voir la beauté du monde et être conscient de sa fragilité, c'est la première caractéristique de l'être humain. Et si on veut être radical, dans le sens où on veut s'occuper de la racine de tous nos maux, il affirmait que le déni de notre fragilité était cette racine de tous nos maux. Mais quand je parle de nos maux, M-A-U-X, bien sûr, et il s'agit de tous les maux. Il n'y a pas, par exemple, nos maux de dents, nos souffrances familiales, nos souffrances sociales, tous nos maux. Le déni de notre fragilité est donc finalement, de notre sensibilité. Et ça m'a fait réfléchir, et ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait là une attitude machiste, par excellence, qu'on a entendue depuis qu'on est tout petit. Tiens, prends cette beigne, tu sauras pourquoi tu pleures. Oh, faut bien bouffer, allez, on va pas quand même être trop sensible. Alors, on n'est pas des bisounours, faut bien se défendre, on peut pas s'occuper de toute la misère du monde. Dans la vie, il faut se battre. Je suis sûr que vous avez entendu ces phrases et que même vous avez intégré ces idées à l'intérieur. Oui, on les a tous, plus ou moins intégrées ou repoussées. Et or, tout montre le contraire. Notre insensibilité est souvent en fait de l'ignorance projetée. On ne savait pas. On ne savait pas. Ça concerne tout. On ne savait pas que taper les enfants, ce n'était pas bon pour leur développement. Ah, on ne savait pas que massacrer les animaux, ben, ça allait nous causer du tort. On ne savait pas que rejeter des produits chimiques, ben, on allait les retrouver plus tard dans nos bouteilles, dans nos robinets. On ne savait pas que bazarder à tout va de la radioactivité, ben, ça faisait la tour de la Terre, ça a contaminé tout ce que l'on mange. Non seulement maintenant, on sait, les scientifiques le disent, mais on savait depuis toujours. On savait depuis toujours. Et c'est là qu'il y a ce déni de sensibilité, ce déni de fragilité. C'est notre erreur fondamentale. Et la prise de conscience de ça, c'est ce qu'on peut appeler une révélation. Donc, l'apocalypse, peut-être. Oui, c'est le vrai sens du mot apocalypse, révélation. Et ça nous amène à une mutation, une révolution. Tous les peuples anciens les sagesses traditionnelles, comme on dit, on les a balayées comme superstition, encore le déni de ceux qui étaient sensibles, pour pouvoir bien sûr coloniser, exploiter, réduire en esclavage, massacrer. Je crois que aujourd'hui, on doit des excuses à chaque être, à chaque animal, à chaque plante, à chaque pierre de cette terre. Au fond, s'aimer, partager, coopérer, aider, accueillir, soigner, soutenir, être solidaire, être fraternel, c'est devenu nécessaire. Sinon quoi ? On crève tous. Et oui, c'est un défi immense parce que on est quand même quelques milliards sur Terre. Et c'est un défi immense, mais je crois que de plus en plus d'hommes et de femmes sur cette planète l'ont compris.
Sometimes I find I get to thinking of the past. We swore to each other then our love would surely last. You kept right on loving. I went on a fast. Now I am too thin and your love is too vast. But I know from your eyes, and I know from your smile, that tonight we'll be fine. We'll be fine, we'll be fine, we'll be fine. For a while I choose the rooms that I live in with care. The windows are small and the walls almost bare. There's only one.
Et les élections dans tout ça. De toute façon, je crois qu'on n'échappera pas à l'apocalypse. Et heureusement, parce que c'est la révélation, c'est comme un feu qui est en train de tout embraser. On comprend, le seul risque que l'on court aujourd'hui, c'est que ce soit trop tard. Quand on voit que des rois du déni de la fragilité de la Terre, c'est-à-dire par exemple Trump, ou même Poutine ou d'autres, sont les chefs des plus grandes puissances, on s'inquiète. Donc il faut voter, oui, mais pour qui ? Pour ceux qui sont lucides. Et qui ne font pas de grandes promesses de retrouver la grandeur d'antan. Ça, c'est trop tard. Et une fois de plus, Jean-Luc Porquet nous le dit dans son livre « Lettre au dernier grand pingouin ». Grand pingouin, tu vas rire. Le mot décroissance est aujourd'hui tabou. Nombre de penseurs de journaux, de revues ont beau expliquer depuis des années que nous sommes face à un simple choix. D'un côté, le chaos vers lequel nous entraîne l'actuelle fuite en avant techno-capitaliste, et de l'autre, une décroissance assumée, organisée, conviviale. Rien n'y fait. Mais on sait le sort que connaissent parfois les idées nouvelles. D'abord, on les ignore, puis on les moque, puis quelque chose bascule. Et voilà soudain que tout le monde se rend à leur évidence. On s'en empare. Donc, il faut voter pour ceux qui s'emparent de cette idée, ceux qui veulent en finir avec le règne des avides, qui nous disent qu'on peut continuer, ceux qui nous proposent à tous de nous y mettre concrètement, partager, ne plus gaspiller, ralentir, communiquer, accueillir, soigner, aimer, se contenter de ce qu'on a. Arrêter de vouloir plus, ou alors plus d'écoute, plus de solidarité, plus de fraternité, plus de démocratie. Oui, voter pour éviter encore la victoire des rois du déni de fragilité.